بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير شفاق الإسلام. Nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité ce soir de reprendre donc les durus, les programmes du tafsir de la sourate Al-Mulk. Et avant les vacances, on était arrivé au verset 15, on avait peut-être fait le 16, le 17, également peut-être quelques versets qu'on a lus, on avait déjà vu, mais Inch'Allah on les revoit très rapidement. Dans les versets qu'on vient de lire, Allah Azza wa Jal invite les mécréants, ceux qui n'ont pas la foi, à méditer, à prendre conscience, à réfléchir sur la puissance d'Allah Azza wa Jal. Parce que ces personnes qui adoraient autre qu'Allah Azza wa Jal savaient dans le fond que c'est Allah le Khaliq, c'est Allah le Créateur. Et ils savaient parfaitement la puissance et le qudrat d'Allah Azza wa Jal. Et donc Allah Azza wa Jal, dans sa clémence, rappelle à ces personnes, par l'intermédiaire du prophète alayhi salatu wassalam, Allah Azza wa Jal fait un rappel pour ces personnes qui ne croient pas au message du dîn, qui ne croit pas au Coran, qui ne croit pas à la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne croit pas à la résurrection. Allah Rabbul Izzah lui a fait plusieurs rappels. Et parmi ces rappels, premièrement, cela concerne la terre où ils habitent. Le deuxième rappel concerne les cieux. Donc le premier rappel concerne un châtiment d'Allah qui peut venir du dessous de la terre, là où ils marchent. L'autre rappel concerne un éventuel châtiment d'Allah Azza wa Jal qui peut venir au-dessus d'eux, qui peut venir des cieux. Et ensuite, dans le verset, ça c'est 15-16, dans le verset, non pardon, 16-17, dans le verset 18, Allah Azza wa Jal rappelle à ces personnes qu'avant vous, il y a eu des peuples, des nations qui ont désobéi à Allah Azza wa Jal et ils ont subi ces châtiments. Lut alayhi salam, qui n'était pas très loin en termes de, par rapport à la Ummah du prophète alayhi salatu wassalam, et d'autres qui ont été engloutis, ensevelis par la terre. Donc voilà, ces trois versets, on peut les commenter ensemble, on va lire la traduction. Êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel, c'est-à-dire Allah, enfouisse que celui qui est au ciel, une petite faute de frappe là, êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel vous enfouisse dans la terre, ça va mieux, et voilà qu'elle tremble. Ou êtes-vous à l'abri, ça c'est pour le châtiment, de la terre. Où êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel envoie contre vous un ouragan de pierre? Vous saurez ainsi quel fut mon avertissement. En effet, ceux d'avant eux avaient crié au mensonge. Quelle fut alors ma réprobation? Et en commentaire, Ibn Kathir, rahimahullah, dit « وَهَذَا أَيْضًا مِنْ لُطْفِهِ وَرَحْمَتِهِ بِخَلْقِهِ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى تَعْذِيبِهِمْ بِسَبَبِ كُفْرِ بَعْضِهِمْ بِهِ وَعِبَادَتِهِمْ مَعَهُ غَيْرَ » Et ça fait partie de la clémence d'Allah, de la lutf, de la gentillesse d'Allah, de la bonté d'Allah envers ses créatures. Et cette bonté-là, elle ne concerne pas les croyants. Cette clémence d'Allah concerne l'ensemble de la création et on pourrait même dire les pires de ces créatures, ceux qui savent que c'est Allah le Créateur, mais qui se prosternent devant des idoles et qui en plus insultent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont en eux deux points négatifs. Un, ils ne croient pas en Allah alors qu'ils savent pertinemment que c'est Allah qui les a créés. Comme il y a d'autres versets qui prouvent que lorsque le prophète demandait à ces gens qui vous a créés, il disait c'est Allah Azza wa Jal. Ça s'appelle dans la création. Ils savaient que c'est Allah le Créateur. Donc, premier péché, ils savent qu'ils sont les créatures d'Allah, mais ils adorent autre qu'Allah. Et deuxième péché, ils ne croient pas en la prophétie du prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'ils savent pertinemment que cet homme-là est exemplaire. que cet homme-là n'a jamais commis d'erreur ni de péché, et que cet homme-là a un comportement qui a toujours forgé le respect depuis son enfance, et ils ont toujours été admiratifs de cet homme, mais parce qu'il invite vers l'adoration d'un Dieu unique, ça pose des problèmes aux polythéistes, aux mouchriquins de Quraysh. Donc il y a deux aïb, il y a deux péchés en eux. Ne pas croire en Allah et le tort qu'ils font au prophète alayhi salatu wassalam. Malgré ça, malgré le culte qu'ils sont en train de vouer à d'autres qu'Allah, malgré les actes qui étaient commis par ces personnes dans la période de l'ignorance, on connaît comment les Arabes étaient dans les Jahiliyyah, malgré tout ça, Allah Azza wa Jal n'envoie pas son châtiment. Allah a pitié d'eux. Malgré ça, Allah Rabbul Izza n'ordonne pas à la terre de les détruire, de les engloutir, comme Allah avait fait avec d'autres personnes. Donne-moi l'exemple d'une personne qui est engloutie, ensevelie par la terre. Qarun, inna Qarun kana min qawm Musa fa bagha alayhim. Qarun qui était englouti par la terre, et l'autre histoire, on a dit tout à l'heure, ce peuple qui a été détruit par une pluie de pierres, un ouragan de pierres, le peuple de Lot alayhi salam, Allah Azza wa Jalla aurait pu détruire cette umma, mais par pitié, par compassion, par rahma. Wa huwa qadirun, alors qu'Allah peut les détruire, Allah Azza wa Jalla leur donne encore une chance. Hada. Wa ma'a hada. ويصفح ويؤجل ولا يعجل. Allah repousse l'échéance et ne précipite pas leur destruction. Et là, ça met en avant une des qualités d'Allah, un des sifats d'Allah Azza wa Jalla, as-sabur. As-sabur, ça vient du mot sabr. Sabr, c'est la patience. C'est-à-dire qu'Allah Rabbul Izzah est patient. Et c'est quoi la patience d'Allah? C'est sa patience par rapport à ceux qui le désobéissent, alors que c'est lui le créateur, mais il ne se venge pas, il ne les châtie pas. Allah Azza wa Jalla laisse ces personnes vivre. Allah leur accorde même des bienfaits. Peut-être qu'un jour ils trouveront la guidée, ou alors Allah leur accorde jusqu'à ce que l'heure arrive pour ces personnes. Il y a un verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit: وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا. Si Allah, traduction approximative, si Allah châtiait chaque personne en fonction de leurs erreurs. Imaginez que, et ça concerne tout le monde, ceux qui n'ont pas la foi, mais également ceux qui ont la foi. Ikhwani fillah, si Allah devait punir ses serviteurs par rapport au moindre péché accompli, ben, il n'y a pas une personne qui passerait une journée. Parce que nous sommes tous des pécheurs. Personne n'est parfait, personne n'a été créé de lumière ici. Nous sommes tous créés de terre, et il est dans la nature de l'être humain de se tromper, de commettre des erreurs. Mais, les meilleurs des pécheurs sont at-tawwabun. Les meilleurs parmi les pécheurs, ce sont ceux qui reviennent vers Allah Azza wa Jal. Donc si Allah Azza wa Jal devait sévir, punir pour chaque péché, ma taraka ala zahriha min dabba. Allah ne laisserait aucune créature, ni aucune bête sur la surface de la terre. Allah aurait déjà châtié tout le monde. Mais walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idha jaa ajaluhum fa inna Allaha kana bi'ibadi basira. Mais Allah nous donne le temps. En ce sens, Allah donne le temps, donne un délai à ses créatures. Mais lorsque le délai est passé, ben là il faudra rendre des comptes. Mais Allah nous accorde le temps. Ikhwani fillah, le temps c'est une ni'ma. Le temps, on va voir le rapport du croyant avec le temps qui se définit entre autres par le biais du surat wal asr, inna l'insana lafi khusr, et le rapport des kuffars qu'on va voir dans les versets qui viennent. Le rapport avec le temps, c'est un rapport faussé complètement, parce qu'ils ont un espoir illimité sur le temps sans pour autant réaliser la valeur de chaque instant qui passe. Pour eux, chaque moment qui passe, et on retrouve ce, on va dire presque ce symptôme, hein, on retrouve, on peut diagnostiquer ces mêmes maladies spirituelles dans les kuffars à notre époque, ceux qui ne croient pas en Allah. Pour eux, chaque instant, chaque moment est un moment où on doit essayer de profiter de la vie, profiter des biens de ce monde, prendre du plaisir. Alors que celui qui a iman en Allah, son rapport avec le temps, il est totalement différent. Il sait que chaque minute, chaque seconde, chaque instant qui passe, c'est un moment qu'il a perdu ou gagné. Si c'est un moment qu'il a passé dans l'obéissance d'Allah, il a gagné, alhamdulillah. Mais si c'est un moment, un laps de temps qu'il a passé dans le péché, ou alors dans le rafla, dans l'insouciance, c'est un temps qu'il a eu comme cadeau, comme amana, mais il n'a pas su l'utiliser correctement. Le rapport du musulman avec le temps, c'est ajib. On est en train de lire des hadiths depuis quelque temps sur le dhikr, l'importance de la pensée d'Allah. Wallahi, ikhwani fillah, c'est pas l'endroit, c'est pas le majlis, parce que là on a un majlis de tafsir, mais dans d'autres assemblées, on va essayer peut-être d'aborder ce sujet parmi les personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. Le jour du Qiyama, rajulun dhakara Allah khalian fafadat 'ayna. Un homme qui pense à Allah seul, c'est-à-dire sincèrement, sans qu'il n'y ait d'ostentation, sans qu'il n'y ait de personne qui voit sa piété ou qui peut constater sa dévotion, ses efforts de l'adoration d'Allah, et son cœur est tellement rempli d'amour pour Allah, d'admiration pour Allah, de contentement qu'Allah lui donne la possibilité d'être présent, de dire subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, de demander pardon, astaghfirullah, de lever les mains, de demander, d'invoquer, de se prosterner, et que cette personne en même temps a ash-shawqu ila liqa'illah, a envie, il attend impatiemment ce moment où il va rencontrer Allah. Il y a quelqu'un qui a des qualités de foi, parce que man ahabba liqa' Allah ahabba Allahu liqa'a, pour qu'une personne ait cet amour incandescent de son cœur, il a envie de rencontrer Allah, c'est que c'est quelqu'un de bien. Celui qui veut rencontrer Allah, Allah veut le rencontrer. Et qui veut rencontrer Allah? C'est celui qui est prêt spirituellement. Que si l'ange de la mort vient, il est prêt à retourner auprès de Dieu, auprès d'Allah Azza wa Jal. Et cette personne-là qui brûle d'amour pour Allah, et il est tellement heureux qu'Allah lui donne la possibilité de lui demander pardon ou de se prosterner devant lui, de faire ses louanges, que cette personne se met à pleurer par amour et par crainte d'Allah. Ça, c'est une situation, c'est un état spirituel qui est indescriptible, qui est magnifique. On a eu l'occasion d'apporter quelques éléments en donnant des exemples. Parfois, vous allez au Umrah, on revient du Umrah, qu'Allah accepte. Vous êtes devant la Kaaba, devant le Multazam, vous avez un état, vous entrez dans un état de iman qui est la foi s'emballe, chose qui ne s'explique pas. Vous marchez normalement, vous êtes parfois même fatigué avec le voyage, pas dans de bonnes conditions, ni physiques, ni psychologiques, parce que vous revenez d'un voyage, vous êtes épuisé et tout. Vous arrivez devant la Kaaba, vous voyez la Kaaba, vous levez les mains, on n'adore pas la Kaaba. On ne se prosterne pas devant la Kaaba. On prend la direction de la Kaaba, comme Allah nous l'a ordonné. Mais la Kaaba reste un monument de pierre, recouvert d'un tissu. On n'a pas idolâtré ce cube en pierre, c'est un symbole. Mais on sait que quand on est à cet endroit, c'est tawfiq min Allah, c'est un cadeau de la part d'Allah Azza wa Jal, et que les doigts sont acceptés, qu'on va accomplir une action qui est ajib, qui est azim, la umrah, avec chaque pas, avec chaque instant, et ainsi de suite, et que la personne lève ses mains et demande doigts automatiquement. Très souvent, il y a un moment d'émotion, ça c'est le iman, c'est qui est en train d'émerger, c'est comme de l'eau qui est en train de bouillir, et le plaisir, le ladha, le halawatul iman qu'on peut ressentir en levant les mains, en voyant la Kaaba, en demandant doua, on souhaiterait que ces moments ne s'arrêtent jamais. Mais malheureusement, ça s'arrête. Parce qu'on ne peut pas rester éternellement en demandant doua devant la Kaaba. Et qu'à un moment donné, spirituellement, on retrouve malheureusement une certaine stabilité, cet état spirituel, ce iman qui est en train de sortir, qui est en train d'augmenter, à un moment donné, il se tasse, et puis on revient aux activités, et on garde toujours de très bons souvenirs de ces moments. On se dit que c'était vraiment des moments magnifiques. Ceux qui l'ont vécu au Hajj, à Arafat, à Muzdalifat, des moments très intenses, se disent que c'était des moments d'exception. Maintenant, imaginez que les pieux prédécesseurs, les sahaba, les tabi'in, ces personnes-là, quand ils faisaient la prière de la nuit, justement, je parlais des textes qu'on est en train de lire, des descriptions des prières de la nuit des sahaba, des tabi'in, des atba'i tabi'in, des ulama, des grands savants de l'islam, Ibn al-Mubarak, les grands muhaddithines, comment ils priaient, ils demandaient doigts, ils pleuraient dans leurs invocations, en faisant le dhikr, que certains grands savants, il suffisait de lire Ida Azul Zilatil Ordo Zilzalaha, il pouvait tenir une nuit de Qiyamul Layl en répétant ce verset. On a lu cet après-midi même une personne qui a été rendue visite à Aïcha radiallahu anha, et elle est en train de lire un verset dans la prière de la nuit, et elle pleurait, elle répétait le verset. Elle a dit que j'ai eu le temps de sortir, d'aller ailleurs et de retourner. Longtemps après, elle était toujours debout de cette position, en train de répéter le même verset en pleurant. Et là, on a énormément d'anecdotes, d'histoires authentiques, avec des chaînes de narration, qui montrent comment ses pieux prédécesseurs, ils pleuraient par amour et par crainte d'Allah, Azza wa Jal. Cet état spirituel, ikhwani fillah, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et justement, je ne sais pas pourquoi on est arrivé à là, subhanallah, on a fait en sujet, on était en train de parler de cette qualité d'Allah, as-sabour, et qu'Allah, malgré nos péchés, malgré nos erreurs, Allah laisse l'être humain et lui donne le temps. Oui, on parlait du rapport avec le temps, le rapport du croyant avec le temps, voilà, on y est. C'est que, en lisant ces textes qui décrivent l'importance du dhikr, chaque Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, chaque salat ala nabi, chaque istighfar, comment est-ce qu'on obtient des récompenses, comment est-ce que notre nom est cité auprès d'Allah Azza wa Jal, et qu'il y a une réponse qui vient de la part d'Allah Azza wa Jal, ben, ikhwan, il fait là notre rapport avec le temps, il change complètement. On réalise que chaque instant, wallahi, c'est de l'or. Et plutôt que dans les embouteillages, et on en a ici, il y a ce qu'il faut, plutôt que d'écouter des radios au trottoir ou des gens qui racontent qu'ils ont perdu leur cabri, leur chat, ou qui ont tel problème, ben, on se dit que, subhanallah, on lit les adhkar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, 100 fois d'affilée. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin, 100 fois. Et vous demandez des du'as, les du'as seront exaucés, seront acceptés. Les adhkar qu'on peut faire avec une grande simplicité lorsqu'on dit subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim, ce que nous enseignons aux enfants, on appelle ça le troisième kalima, mais pour chacune de ces dhikr, il y a une réponse de la part d'Allah Azza wa Jal. Et là on se rend compte comment est-ce qu'on gagne énormément de récompenses. Ikhwan fillah, notre rapport avec le temps il changerait si on avait la possibilité de connaître vraiment l'importance du temps et de voir à travers la vie des pieux prédécesseurs comment ils donnaient de l'importance à chaque instant. Certains, subhanallah, parmi ces muhaddith, ils disaient qu'ils passaient en dehors du talab al-ilm, de l'apprentissage, de la connaissance religieuse, ils passaient l'essentiel de leur temps dans les invocations, dans les adhkar. Il a dit que des fois ils s'arrêtaient. Il dit qu'on s'arrête, on se repose pour pouvoir reprendre de plus belle, pour prendre des forces, pour pouvoir refaire les qiyam al-layl, refaire les dhikr. C'était le but de leur vie. Entre la connaissance religieuse, le dhikr et le mon, chaque moment était un moment propice pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Pas comme nous dit plus tard, Ramadan, ou alors je vais au Hajj cette année, là on va faire le Tawbah, là on va prendre des bonnes résolutions. Eux non, ils savaient que chaque moment était important. Et on verra que dans les autres versets de Tabarakali, dans Amman Hadha Alladhi Huwa Junnun Lakum, jusqu'au verset 27 à peu près, comment le rapport avec le temps est totalement faussé et ils attendent. Alors que nous ne devons pas attendre. Ils réclament des preuves, alors que le mu'min ne doit pas demander des preuves. Parce que nous sommes ceux qui, yu'minuna bil ghaib, nous croyons en l'invisible. Et ils auront le visuel qu'ils souhaitaient, mais le visuel est la preuve de ce que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait annoncé. Ils l'auront, عين اليقين, ils vont le voir. La tarawun al jahim, thumma la tarawunha. Ils le verront le jour de Qiyamah, mais malheureusement, lorsqu'ils le verront, ce sera trop tard. Parce qu'ils avaient un rapport avec le temps qui était faussé. Ils ne voulaient pas profiter de ce temps pour croire en un Seigneur qu'ils ne voyaient pas, en des promesses dont ils n'avaient aucune preuve. Et c'est là que nous voyons l'importance du iman. Et que nous croyons en Allah, nous prions, nous faisons les bonnes actions. Même si on n'a pas vu, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est installé dans le cœur. C'est la foi en Allah. Et Allah nous le donne à la naissance ou durant notre vie. Et c'est le plus grand cadeau de la part d'Allah. Ça, je ne me trompe pas, c'est Umar ibn al-Khattab, disait que lorsque Umar ou Ibn Umar, un entre les deux, dit lorsque j'ai une épreuve, un musiba, une calamité, on pourrait dire, ben, je remercie Allah Azza wa Jal pour certaines choses. Premièrement, que l'épreuve ne soit pas plus difficile ou autre chose. Et parmi les trois ou quatre points qu'il avait dit de choukr, de remerciement par rapport aux difficultés, il dit, il remercie Allah que l'épreuve ne touche pas sa foi. La pire des épreuves, c'est d'être éprouvé dans son iman et qu'Allah le protège. Qu'un cœur soit habité par shak, par le doute. Que la personne commence à douter, na'oudou billah, de son iman, de l'importance de la foi, des prières. Ça, c'est la pire des situations. Tant que ça touche la santé, ça touche... Enfin, je dis ça comme ça, tant que... Je veux dire que l'épreuve peut toucher n'importe quel autre domaine, mais il ne faut surtout pas que ça touche la foi, que ça nous éloigne d'Allah Azza wa Jal. On revient. Donc, mise en garde ces personnes. Donc, malgré leur désobéissance, Allah Azza wa Jal dit qu'il ne les punit pas, qu'il ne les sévit pas, alors qu'Allah est capable de le faire. Et c'est là une des qualités d'Allah. Et le verset qu'on vient de citer en commentaire va de ce sens. أَأَمِنْتُ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. Donc, ça, c'est l'autre châtiment qu'Allah annonce et qui a été envoyé sur d'autres communautés, comme l'a dit le peuple de Lut alayhi salam. Et dans d'autres versets, lorsqu'Allah parle de ces châtiments, le verset conclut par ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا. ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا, c'est-à-dire quand Allah détruit ou envoie une punition, vous ne trouverez personne pour vous aider. Personne ne peut aider une personne contre la punition, contre la colère d'Allah Azza wa Jal. À une échelle totalement différente et bien inférieure, nous voyons, ça on avait donné cet exemple avant les vacances dans certains commentaires, quand on a un cyclone, t'as déjà vu un cyclone à la Réunion ? Hein, c'est du lourd, hein. Cette année, Inch'Allah, il n'y en aura pas. Quand il y a un cyclone ou il y a ce genre de cataclysme, on se sent vraiment vulnérable. On comprend comment cette nature elle est écrasante. Lorsque vous vous retrouvez au barachois devant des vagues qui font 10 mètres, on se rend compte qu'on n'est rien. Et que, subhanallah, la puissance d'Allah. Après, il y en a qui vont dire, dame, mais nature ou autre chose, Allah musta'an. Mais non, on voit la qudrat d'Allah Azza wa Jalla. Lorsqu'on voit le volcan, un spectacle qui est magnifique, avec divergence d'opinion des savants, il faut voir, pas voir, ça fait un autre débat. Un tel spectacle, on se rend compte de la puissance d'Allah, mais on se rend compte également que nous ne sommes rien. Et d'autres situations, qu'Allah nous protège d'un séisme, un tremblement de terre, on sent notre impuissance. Quel homme, quelle richesse, quel homme, un roi ou chef d'État ou autre chose, ou tyran, parfois il y en a aussi, qui peut empêcher la terre de secouer, de trembler, qui peut empêcher un tsunami, une vague venir et emporter la moitié de Saint-Denis ou de Saint-Paul ou autre chose. Personne n'est capable de le faire. Ils peuvent mettre des montagnes de, comment on appelle les trucs triangulaires là? Si tu es devenu un bon réunionnais, qu'on met sur la route du littoral. Tétrapode. Tu sais les tétrapodes? Et après, il faut sortir un peu, Inch'Allah. La route du littoral, il pourrait mettre des montagnes de tétrapodes si Allah a ordonné aux anges de laisser la mer rentrer sur la terre, c'est censé casser les vagues. La qudrat d'Allah est telle qu'aucune force ne peut l'empêcher. Thumma la tajidu lakum wakila. C'est le sens du verset. Et si le châtiment d'Allah s'abat sur nous, personne ne saura trouver quelqu'un pour nous aider ou un quelconque secours ou un quelconque refuge. Nas'alullaha al-afiya. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ أَيْ كَيْفَ يَكُونُ إِنْذَارِي وَعَاقِبَةُ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ وَكَذَّبَ بِهِ. Et là, vous saurez quelle est la punition d'Allah, comment est-ce que le châtiment d'Allah Azza wa Jalla est terrible et douloureux. La leçon qu'on retient, nous, c'est on ne doit pas attendre que le châtiment arrive pour prendre conscience de la puissance et de la qudrat d'Allah et qu'il ne fallait pas le désobéir. Le musulman intelligent, c'est celui qui prend les précautions pour faire les bonnes actions, qui prend les précautions pour s'éloigner des péchés, pour se protéger de la colère d'Allah Azza wa Jal. Et parmi les actions qui protègent l'homme de la colère d'Allah Azza wa Jal, il y a la sadaqa. L'aumône nous protège de la colère d'Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle dans un hadith qui est très connu, « Ittaqun nara walaw » Craignez Allah même par le biais d'un morceau de tamra. C'est quoi tamra? Pépite d'or? Un morceau de diamant? Un morceau de date. Même s'il faut donner un petit morceau de date en aumône à un pauvre, peut-être que c'est par ce petit, enfin, je dis ce petit, par cette aumône-là qu'on sous-estime, c'est peut-être par ça qu'Allah nous protège de an-nar. Et vous voyez, ces deux entités qui sont incomparables se retrouvent dans une même phrase composée de ittaqu an-nar wa law bi, préposition shaq tamra, une petite phrase de 8 mots avec certaines petites prépositions en une lettre. On a tamra et on a nar, et qu'est-ce qui les relie? Protection. Le petit morceau de date te protège du jahannam. Quand on lit les versets qui parlent de la description de l'enfer, on se dit que subhanallah, un morceau de tamr nous protège de l'enfer. Iwallah, bien sûr que oui, quelqu'un qui le donne en aumône sincèrement, peut-être ce geste là peut nous protéger du jahannam, du feu. Le croyant, il prend des précautions pour que la colère d'Allah ne le touche pas. Ensuite, après qu'Allah met en garde les mouchriquines contre ces deux châtiments qui sont possibles et qui ont touché d'autres peuples, Allah rappelle, attention, وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرًا. En effet, ceux d'avant eux avaient crié au mensonge. Quelle fut alors ma réprobation? أي مِنَ الْأُمَّمِ السَّالِفَةِ وَالْقُرُونِ الْخَالِيَةِ. C'est-à-dire parmi les peuples précédents. Et les Mufassirin disent que voilà une des richesses du Coran et un des principes de la religion. Toujours se retourner et voir ceux qui ont œuvré avant nous, profiter de l'expérience des autres, des bonnes expériences, ceux qui étaient là avant nous, qui ont bien œuvré et comment ils ont été agréés par Allah Azza wa Jal, mais également voir ceux qui étaient là avant nous et quelles étaient leurs erreurs et ne pas commettre les mêmes erreurs. Ça, c'est un musulman qui est intelligent. Le croyant intelligent, c'est celui qui est capable de discerner. C'est pas celui qui suit ses passions, ses pulsions comme un animal et qui va faire ce qu'il a envie de faire, ce que son cœur lui dit. En fait, c'est pas son cœur qui lui dit, c'est ses instincts, ses pulsions animales qui lui disent de faire telle chose, d'aller vers tel plaisir, vers tel asbab de plaisir plutôt, d'accord? Mais le croyant intelligent, il examine comment est-ce qu'il y a, un livre qui a été écrit en arabe, magnifique livre, Asbab Halak il Qawm, en ce sens, As-Sabiqa ou At-Taliya, les raisons pour lesquelles les autres peuples ont été détruits. Tous les châtiments d'Allah qui ont touché les peuples, le peuple de Salih, de Aad, de Houd, l'autre, et nous, Azam, pourquoi est-ce qu'ils ont été détruits à travers les versets, les hadiths qui décrivent l'histoire de ces prophètes, quels étaient leurs péchés et comment fut le châtiment. L'objectif, c'est quoi? C'est un des objectifs des qasas, des histoires du Coran, pour que cette communauté ne commette pas les mêmes erreurs que ceux qui sont venus avant eux. Et nous, nous sommes ceux qui demandent à être dans le sirat al-mustaqim. Et non pas sirat al-ladina. Et non pas ghayril maghdoubi alayhim. Et non pas ad-dallin. Savoir comment est-ce que al-maghdoubi alayhim, qu'est-ce qu'ils ont fait comme péché. Et ad-dallin, comment est-ce qu'ils se sont égarés pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Ça, c'est un croyant intelligent. Et le Coran nous rappelle, nous demande souvent de réfléchir et de méditer sur le sort des peuples avant nous. Les savants, les Moufassins disent que voilà encore une des richesses du Coran. On profite du passé. Un passé qu'on n'aurait pas connu s'il n'y avait pas la révélation. Et quand Allah Rabbul Izzah raconte l'histoire des prophètes, prophète alayhi salatu wasalam révèle les versets. Allah Rabbul Izzah dit parfois, le verset ne me revient pas, ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. Allah Rabbul Izzah rappelle au Prophète sallam que lui ne pouvait pas savoir qu'est-ce qui s'est passé avant. C'est bien qu'Allah lui ait donné le wahi, la révélation, pour qu'il sache en détail l'histoire de ceux qui sont venus des milliers et des milliers et des milliers d'années avant lui, et qu'est-ce qui s'est passé exactement, quelle était la nature des relations entre ces prophètes et leur peuple, et quelles étaient les erreurs de leur peuple. Donc, c'est une des richesses du Coran, connaître le passé, et une des richesses du Coran également, c'est connaître le futur, avec les signes de Qiyama et la description de l'au-delà. Celui qui lit les textes du Coran et les hadiths qui parlent du akhira, de l'au-delà, wasf al-jannah, wasf al-nar, ardu al-mahshar et toutes les étapes, les marahil de l'au-delà, assurément c'est une personne qui va comprendre et qui va réaliser qu'est-ce qui nous attend. Et donc la personne va prendre les bonnes décisions. Il va faire les bons choix, il ne va pas orienter sa vie en fonction de son nafs, de son ego, mais plutôt en fonction du wahi, en fonction de la révélation d'Allah Azza wa Jal. On peut compléter encore un verset, on en est à combien là? 27 minutes, on terminera à 30 minutes, inch'Allah, encore 3 minutes. Awalam yaraw ila at-tayr. Maintenant, Allah Azza wa Jal demande à l'homme de lever la tête. Ça, c'est moi qui dis, hein. Regardez les oiseaux. Regardez la création d'Allah Azza wa Jal. Regardez comment est-ce qu'Allah a organisé al-khalq, la création, et comment cette organisation-là, elle est parfaite. Et là, l'exemple qui est cité, c'est At-Tayr. Vous vous rappelez au début du surat Tabarak al-Ladhi, il était question beaucoup du ciel. Farji' al-basar, farji' al-basar, thumma arji' al-basar karratayn. Regardez le ciel, comment il est parfait. Regardez encore une fois, vérifiez. Ça, c'est mon interprétation, je ne l'ai pas vu d'Ibn Kathir, mais ce verset nous ramène vers le haut, nous demande de regarder le ciel. Et là, à partir du verset 18, nous demande de regarder les oiseaux, tout ce qui est en haut. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ. N'ont-ils pas vu les oiseaux au-dessus d'eux, déployant et repliant leurs ailes? مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنِ. Déployant et repliant leurs ailes tour à tour. Seul le tout miséricordieux les soutient. Innahu bi kulli shay'in basir, car il est sur toute chose clairvoyant. Ibn Kathir, rahimahullah, dit que il parle du mouvement, hein, des ailes des oiseaux. Wa ta'aratan tajma'u janahan wa tanshuru janaha. Est-ce que un homme est capable de faire ça? Est-ce qu'un autre animal, est-ce qu'un reptile ou un mammifère est capable de faire ce qu'un oiseau fait? Là, wallah. Et l'oiseau qui sait pertinemment, qui sait exactement un oisillon qui vient de naître, qui et qui prend son envol. Comment il prend son envol? C'est pas qu'il commence à marcher, il sautille, puis il tombe. Non, c'est direct depuis la montagne, il y va. Et c'est le ta'lim qu'Allah lui a donné. Il sait comment replier, déployer. Et les deux, on va dire que les deux gestes sont cités dans le verset. Safatin wa yaqbidun, tour à tour, il déploie et il referme ces muscles-là. Et avec ce mouvement, ils peuvent voler. Qui c'est qui a appris à ces animaux comment il faut voler? Il a réalisé Alik. Tout ça, c'est le code qu'Allah a donné à l'ensemble des créatures. Et chaque spécimen a ses spécificités. Lisez un post qui a été mis par une personne sur les réseaux sociaux, hein, une personne qui est fan des oiseaux. Et il explique comment lors de la phase de l'éclosion, lorsque les petits oiseaux, les oiseaux sont dans les œufs, ils ont comme un petit bec. Je ne sais pas si c'est tous les oiseaux ou certaines espèces. Là, on parle plus des canaris, des perruches et des mandarins, d'accord. Ils ont un petit bec, d'accord, et ça leur permet de fendiller la coquille. Juste suffisant. Et lorsqu'ils l'ont fait, après quelques coups de bec, je ne sais pas si ça s'appelle vraiment un bec, ce petit morceau dur là, ça tombe. Et là, la maman, oiseau, elle peut enlever les morceaux de coque, hein, la coquille de l'œuf, pour que l'oisillon peut sortir. Ça, c'est la création d'Allah. Ça, c'est la perfection de la création d'Allah. Qui pourrait donner une telle qudra et qui peut amener la vie dans cet œuf? Et subhanallah, comment est-ce que comment est-ce qu'une personne peut ne pas croire en Dieu lorsqu'on analyse, lorsqu'on prend le temps de regarder? Le Coran nous demande de prendre le temps de regarder. Awalam yaraw ila tayri, qui prend du temps? Qui prend un peu de temps pour regarder les oiseaux voler? Qui prend un peu de temps pour regarder les mouvements des abeilles, la reine et d'Alik? C'est tellement Ibrahim qui est poète et artiste, mais mis à part les poètes et les artistes, lorsqu'on est pris avec le boulot, avec les réseaux sociaux, les tweets et tout ça, on prend même plus le temps de regarder ce qu'il y a autour de nous. Et on perd beaucoup de facultés et on perd un potentiel spirituel qui est basé sur la contemplation. À la base de l'art, il y a la contemplation. Mais si on arrête de contempler, ben on perd énormément d'acquis spirituels, parce que lorsque l'homme fait at-tadabbur bi ayatillah, bi khalqillah, il analyse la beauté, la perfection de la création d'Allah, ça doit normalement augmenter notre iman, augmenter notre foi. Amener des jeunes près de la mer, d'accord? Une mer qui est magnifique, ou amener les jeunes près du volcan, amener-les au cirque de Silos. J'étais Silos. Tu as été Silos? Mashallah. À Mafat, tu étais à Mafat? Encore? Faudra, hein? Vous amenez ces jeunes devant un lever du soleil au piton des neiges. Je crains qu'ils soient plus intéressés par les dernières notifications, parce que tout d'un coup ils ont eu réseau, plutôt que par ce magnifique lever du soleil au piton des neiges. Malheureusement, on est oublié. On ne pense plus à regarder ce qui est beau. Et tout ce qui nous entoure est beau parce que c'est la création du Al-Jamil, la création d'Allah Azzawajal qui est beau. Donc, ce verset rappelle à l'homme, regardez ces oiseaux, comment est-ce qu'ils déploient, ils referment leurs ailes. Alors, مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ, seul le tout miséricordieux les soutient. Ibn Kathir, rahimallah, dit, ça veut dire quoi les soutient? C'est pas que, si quelqu'un lit la traduction littéralement, il dit quoi? C'est comme si Allah empêche les oiseaux de tomber. Là, wallah, c'est pas du tout ça. Le sens du verset, c'est bima ay bima sakhara lahunna min al-hawa min rahmatihi wa lutfi, par rapport à l'enseignement qu'Allah leur a donné de la façon de bouger, de déployer les ailes pour tenir dans les airs, et par le hawa, par le vent qu'Allah met au niveau où ils volent, qui leur permet d'avoir, comment on appelle ça, cette stabilité. Même les avions, je ne suis pas trop expert dans ce genre de truc, mais même les avions, l'avion, à un certain moment, il prend une certaine altitude, et à une certaine altitude, je pense qu'il n'y a plus trop besoin de la puissance des moteurs, parce qu'une certaine altitude, c'est presque l'avion plane, hein, je ne sais pas comment on appelle ça, mais à, je ne sais pas, 1000 mètres ou 2000 mètres, ben même si l'avion il pèse je ne sais pas combien de tonnes, à un moment donné, il est soutenu. Ben, ces oiseaux-là, à une certaine hauteur, une certaine altitude, il suffit juste qu'ils aient les ailes déployées et ils planent. Et ça, c'est ce qu'Allah leur a accordé. Ça, c'est Allah leur a accordé et qui leur permet de rester au-dessus des autres créatures. Ça concerne cette race de créatures d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est le sens de « Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman ». إنه بكل شيء بصير car il est sur toute chose clairvoyant أي بما يصلح كل شيء من مخلوقات الله c'est pertinemment ce qui est mieux pour chacune de ses créatures ce qui est bon pour l'homme Allah nous a prescrit, nous a accordé ce qui est bon pour les oiseaux, ce qui est bon pour les poissons, ce qui est bon pour les mammifères, ce qui est bon pour les reptiles, ce qui est bon pour les insectes, ce qui est bon pour la vie microbienne, microscopique. Tout ça, ce sont les créatures d'Allah qui ont leur rizq, leur subsistance de la part d'Allah. L'homme doit regarder et réaliser la puissance et la qudrat d'Allah Azza wa Jal. On va s'arrêter à là, Inch'Allah. Et la semaine prochaine, on va voir les versets concernant toujours les mouchriquines, et Allah les rappelle que c'est Allah seul qui peut leur venir en aide des difficultés et qui leur donne leur subsistance. On va voir ça la prochaine fois, Inch'Allah. Tawfiqillah billah. Qu'Allah nous tawfiq de comprendre ces quelques paroles, que la réalité pénètre notre cœur et que notre iman augmente et qu'Allah nous donne la possibilité de profiter de notre temps, que chaque moment qu'on passe est un moment qui nous rapproche d'Allah Azza wa Jalla et qu'Allah nous protège de suivre nos passions. D'aller vers les péchés et nous protège également de l'insouciance. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.